Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, va-t-on vers la fin des records sportifs? Les derniers championnats du monde d'athlétisme qui se sont terminés dimanche à Doha ont provoqué parfois une sorte de vague d'amertume chez tous les commentateurs sportifs, à la fois en raison des conditions d'organisation complexes, mais également de résultats qui, sans être catastrophiques bien sûr, sont loin des records battus chaque saison dans les années 90-2000. Déjà, à cette époque, les observateurs de la vie sportive annonçaient une période de ralentissement des performances et l'espoir d'une science augmentée, c'était en tout cas ce qu'ils espéraient à cette époque-là. Il restait un espoir pour ceux qui croyaient encore à la devise « Sitius, Altius, Fortius, plus vite, plus haut, plus fort », la devise de Coubertin. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous allons le voir avec nos trois invités. Isabelle Queval, qui est philosophe et enseignante-chercheuse à l'INS-HEA et dont le dernier livre qu'elle a dirigé s'intitule « Du souci de soi au sport augmenté », et c'est sur le corps entraîné, dopé et appareillé. C'est aux presses des Mines en 2016. Nous avons également avec nous Véronique Billat, elle est professeure des universités en STAPS à l'université d'Évry-Val-d'Essonne. Et elle assure le suivi d'entraînement de beaucoup de sujets de tous niveaux et de tous âges, justement en particulier sur le marathon. Et avec nous également à Frédéric Ferrer, il est en duplex avec nous, il est metteur en scène de la série de spectacles Olympicorama dont il nous parlera dans un instant.
C'est parti dès le premier départ avec un départ assez moyen de Borel et de Lewis qui est très très en retard. Car Lewis est très en retard et c'est Mireille Borel qui va gagner. Non, attention Lewis, c'est Lewis, record du monde, 2 secondes et 86 centièmes.
Le record définit précisément la limite des capacités humaines à un moment donné. Lorsqu'on voit que ce record ne progresse plus, on peut se poser la question de ce que sont l'évolution de nos capacités physiques, intellectuelles, collectives, sociétales, économiques, sanitaires, que l'on rencontre à peu près dans tous ces domaines en même temps actuellement.
Voilà, c'était en 1991, Carl Lewis qui battait le record du monde du 100 mètres aux Mondiaux d'athlétisme à Tokyo, et ensuite Jean-François Toussaint, directeur de l'IRMES, Institut de Recherche Biomédicale et d'Épidémiologie du Sport, qui nous expliquait effectivement qu'il y avait des paliers, peut-être dans la victoire sur les performances que l'on pouvait avoir vis-à-vis de son propre corps. Merci d'être avec nous. D'abord, Frédéric Ferrer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex depuis les studios de Radio France qui vous accueillent, ainsi que Isabelle Queval, bonjour, vous êtes en studio avec nous. Et pour votre part, Véronique Billat, bonjour.
Bonjour.
Bonsoir, plus exactement. Alors, si on reprend cette longue histoire, on s'aperçoit tout de même que ce type de palier qui était évoqué par Jean-François Toussaint, à la fois physiologique, psychologique, etc., etc., sont des paliers qu'on connaît à certains moments, mais qui sont parfois dépassés. Isabelle Queval, si on revient sur les périodes récentes, on a cette impression de piétiner, mais est-ce si vrai?
Alors, on a peut-être l'impression de piétiner, dans certains sports sans doute beaucoup plus que dans d'autres. Vous évoquiez l'athlétisme, on pourrait dire tout à fait autre chose du tennis qui connaît une sorte d'apogée actuellement avec les champions qui sont...
Vous êtes vous-même une ancienne championne de tennis.
Qui sont en compétition. Et par ailleurs, lorsqu'on évoque ce ralentissement, on fait allusion le plus souvent à quelque chose d'ordre physiologique. Voilà, c'est-à-dire à quelque chose qui est de l'ordre de l'évolution de l'humain sur le plan physiologique. Or, le sport ne se résume pas, bien évidemment, à la physiologie, et ce, depuis le début de son histoire. Le sport, c'est une activité technique, technicienne, qui inclut des techniques du corps, mais qui inclut aussi le maniement d'objets, d'engins, qui se perfectionnent eux-mêmes à partir des matériaux qui évoluent considérablement.
Le record, carbone.
Voilà, le record du saut à la perche en 1900 est de 3 mètres, aujourd'hui 6 mètres 15. Donc il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la technique et qui n'est pas réductible à cette limitation physiologique. Par ailleurs, ce ralentissement peut aussi être le fait de la lutte antidopage qui a quelques effets, probablement, et là encore, dans certains sports, plus que dans d'autres.
Véronique Billat, quand je vous ai rencontré juste avant cette émission, vous me dites, la question c'est un peu un marronnier, savoir si les records sportifs c'est terminé, parce que vous pensez, vous, que ça n'est pas terminé.
Loin de là, on connaît rien de l'entraînement véritablement. Même dans le domaine du marathon, je dirais que les méthodes d'entraînement sont les mêmes depuis quasiment un siècle. L'intervalle training, l'entraînement au seuil, etc. On a juste mis des mots un peu scientifiques dessus. Mais quand on regarde, il y a un siècle, ou pas vos Nurmi, etc., c'était les mêmes entraînements, avec des mots scientifiques en moins.
Vous voulez dire que la méthode d'entraînement n'a pas changé, ou les méthodes d'entraînement ont peu changé, et qu'en les changeant, on pourra peut-être changer la capacité à acquérir de nouvelles performances ?
Il y a deux clés pour améliorer les performances. La démocratie, donc je dirais augmenter le vivier, même pour le marathon d'enfants, de jeunes qui peuvent courir et dont on sait qu'ils sont performants. Et l'éducation.
Marathon d'enfants, on peut faire des marathons.
Non, je veux dire les jeunes. Ouais, d'accord. Des jeunes, parce que quand on regarde Kipchoge, ça fait 18 ans qu'il court, et déjà quand il était junior, il faisait des courtes distances, il était déjà très performant. Donc je pense que la clé, c'est de la détection et puis l'éducation.
Donc c'était en septembre 2018 à Berlin, et bien justement le Kenyan Eliud Kipchoge battait le record du monde du marathon en 2h, 1 minute et 39 secondes.
Il a forcément le sourire, Eliud Kipchoge, il le sait, il va passer cette barre des 2,02, il lui reste quelques mètres seulement.
Il va faire 2h1.45 ou 2h1.40 maximum, et là il a mis une claque, c'est 1 minute 20 qu'il lui a mis.
Pour la première fois de son histoire, un athlète franchit la barre des 2,02, 2,01
38
secondes, incroyable, Eliud Kipchoge.
Fabuleux.
Qui vient de faire quelque chose de monumental.
Alors toujours ce vocabulaire évidemment extraordinaire, monumental, incroyable, Véronique Billat. Et d'ailleurs, il va s'y remettre ce week-end, puisqu'après-demain, théoriquement, Eliud Kipchoge va tenter de battre les 2 heures, de descendre en dessous des 2 heures, c'est cela, au marathon.
Tout à fait, ça va être la barrière des 21 km/h. Donc en fait, il a 35 ans. Il a commencé à construire sa performance tout jeune sur des 1500, 3000 mètres. Il est extrêmement rapide. Et la clé du succès sur le marathon, c'est d'avoir cette réserve de vitesse. Si on veut progresser, il faut arrêter de séparer les épreuves d'endurance des épreuves de sprint. Je pense que l'entraînement du futur, ce sera justement de considérer l'humain comme quelqu'un de polyvalent.
Et de quelqu'un aussi de stratège, mais on le sait évidemment quand on fait des courses de fond, et comme le marathon ou d'autres, ou même le 1500 mètres, il suffit déjà à réfléchir à cette question de la stratégie, c'est-à-dire évidemment commencer rapidement, s'interrompre un peu pour pouvoir avoir un rythme peut-être même en dessous de la moyenne, et puis finir de façon beaucoup plus rapide.
C'est la clé du succès, c'est justement de savoir partir vite, justement quand on n'est pas fatigué, on a une réserve de puissance qui nous permet de partir vite et après de faire un lâcher prise. C'est une belle philosophie de vie et d'osciller en termes de vitesse, de pas toujours rester à une vitesse constante.
On reviendra avec vous justement sur cette question de philosophie de vie que vous associez évidemment depuis longtemps, Véronique Billat, à cette question du sport et de la performance sportive. Mais Frédéric Ferrer, j'imagine qu'en écoutant ce commentaire de septembre 2018 sur l'équipe TV, ça vous a rappelé les bandes et les heures de films de télévision autour du sport que vous avez pu voir pour votre spectacle Olympicorama, bonsoir.
Oui, bonsoir. Oui, tout à fait. Oui. Alors, je ne me suis pas encore intéressé au marathon, mais ça va venir. Puisque là, pour l'instant, je fais épreuve après épreuve. Et donc, j'ai fait le 400 mètres, le disque, le lancer du disque. Et puis là, récemment, la semaine dernière, le saut en hauteur.
Alors, il faut expliquer à nos auditeurs ce dont il s'agit. Vous avez décidé de lancer une série de spectacles qui vont durer jusqu'en 2024, au moment des JO à Paris. Et ces spectacles sont centrés sur une discipline sportive de l'athlétisme en particulier. Et ils se succèdent. Vous êtes seul sur scène, mais vous avez beaucoup d'accompagnement justement avec des archives sportives pour pouvoir expliquer de façon, disons, plutôt comique, mais pas simplement comique, justement l'évolution de ces sports olympiques depuis leur invention jusqu'à aujourd'hui.
Oui, l'idée c'était de questionner l'olympisme précisément à la Villette, c'est-à-dire qui est une cohérence géographique avec le fait, tout simplement parce qu'il va y avoir, la Villette va être un endroit de Paris 2024, et donc il y avait, et comme la Villette est un lieu artistique et culturel, avec une programmation artistique et culturelle, il y avait une espèce de cohérence, de pertinence géographique à questionner l'olympisme précisément à l'endroit où il va se dérouler, parce qu'il y aura des épreuves d'haltérophilie notamment. Et donc voilà, donc j'ai imaginé ce projet jusqu'en 2024, qui soit un projet un peu voilà, qui est vraiment une course de fond de quatre spectacles conférences par an à raison de deux, un tous les 2 à 3 mois, et qui est comme prisme de questionnement, j'ai choisi de partir des épreuves, en fait. Alors, je pourrais pas toutes les faire parce qu'il y aura 321 épreuves aux prochains Jeux Olympiques et que je ferai pas 321 conférences. On est plutôt sur le format de 24 conférences. Et l'idée, c'était de partir des épreuves parce qu'en partant des épreuves, eh bien, tout simplement, on peut, à travers l'évolution d'une épreuve, comme celle du disque ou celle du 400 mètres, qui partent vraiment des Grecs, on peut questionner l'ensemble de l'évolution, à la fois de l'olympisme, de l'épreuve bien sûr, mais aussi de l'olympisme et des questions qui se sont posées régulièrement au fil du temps et surtout au XXe siècle.
Isabelle voilà. Queval, justement, cette question du spectacle du sport n'est pas totalement dissociée, mais peut être dissociée justement de la question que nous posons sur la question de la performance sportive.
Aujourd'hui, le sport de haut niveau est aussi un spectacle. Voilà. Et il n'est même plus envisageable de le dissocier de ce phénomène de spectacle et de spectacularisation. Peut-être que, voilà, il y a très longtemps, on aurait pu penser autrement. Coubertin lui-même pensait différemment. Il pensait que le nombre de spectateurs devait être limité, que les spectateurs devaient être des amateurs de sport, etc.
Bon. Des sportsmen, comme on
voilà,
disait à l'époque.
Tout à fait. Donc aujourd'hui, ce sont des grands messes, les grandes compétitions sportives. Il y a une universalisation, une mondialisation du sport, qui d'ailleurs concourt aussi, comme le disait Véronique, à ce que, dans certains sports, le fait que davantage de pays les pratiquent, ça permet aussi de les faire progresser. Donc ce qu'on dit du ralentissement ne convient pas à l'ensemble des sports. Je rappelle quand
vous voulez dire qu'avant, il n'y avait pas les Kenyans, il n'y avait pas les Éthiopiens pour le marathon, ils sont arrivés, ils ont commencé.
Je ne parle pas du marathon, voilà, en l'occurrence, il y a aujourd'hui plus d'une centaine de sports référencés. Et d'ailleurs, les Jeux Olympiques essayent d'inclure dans les épreuves olympiques de plus en plus de nouveaux sports, et ces nouveaux sports sont souvent des sports spectaculaires. Voilà, donc ça a du sens.
Lesquels, par exemple?
Le breakdance, par exemple. Voilà.
Je veux dire que si la pétanque n'a pas été intégrée dans le palmarès des sports, c'est parce qu'elle n'est pas assez spectaculaire, par exemple.
Pas forcément. On peut pas non plus tous les inclure. Et puis, il y a des tests qui sont faits. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas limiter le sport d'aujourd'hui à l'athlétisme. Voilà. Et donc, tous ces nouveaux sports progressent selon des paramètres qui leur sont propres, comme par exemple la démocratisation, progressent parce que les techniques qui les accompagnent elles-mêmes progressent, ce qui est valable par exemple dans le tennis, puisqu'on le citait tout à l'heure, on a aujourd'hui une amélioration des différents paramètres, y compris l'entraînement, qui fait que les sportifs ont progressé et qu'on a aujourd'hui des très très grands sportifs. Donc, il ne viendrait pas à l'idée de dire que leurs performances se ralentissent.
Mmh. Véronique Billat, justement, cette question de l'entraînement est toujours en arrière de la main et même d'une certaine façon apparaît comme la boîte noire, pourrait-on dire, de la performance sportive. Quand on évoque les performances en athlétisme, par exemple, de certaines des athlètes que l'on a pu voir à Doha, eh bien, on voit derrière le spectre d'Alberto Salazar, de son Oregon Project, un groupe d'entraînement qui a été créé aux États-Unis et financé par Nike. Et on se dit, bah, forcément, est-ce que derrière, il y a de la testostérone, est-ce qu'il y a des acides aminés spéciaux, etc., pour pouvoir améliorer les performances sportives. Cette question de la boîte noire de l'entraînement, vous la mettez au milieu de du débat d'une certaine façon, parce que vous pensez effectivement que l'entraînement, c'est très important et que c'est par l'entraînement justement que l'on change le rapport au sport de haute performance.
Évidemment, c'est la reproduction des savoir-faire qui prévaut. Actuellement, les entraîneurs sont des ex-champions.
Et comme vous d'ailleurs, vous avez participé.
Oui, mais moi j'étais pas un très très grand athlète et j'ai très vite arrêté pour pouvoir faire des études. Parce que justement, ma vocation est venue parce que j'ai vécu, peut-être comme Isabelle, le surentraînement. Et je me suis dit, il y a des façons de s'entraîner plus intéressantes, plus efficientes, et qui permettent à quelqu'un de pouvoir continuer à faire des études. Et c'est ça le problème. Et continuer à faire des études et pouvoir faire aussi des choses à côté. Ne pas se réduire à faire de l'entraînement 4 heures par jour. Moi, je prétends, et c'est tout le sens de ma vie depuis 30 ans, de trouver des protocoles d'entraînement qui permettent, minimalistes, qui permettent à quelqu'un de s'accomplir, d'être très performant, de se faire plaisir dans un sport parce qu'il sent, il va au bout de ce qu'il peut faire, mais ailleurs aussi également en tant qu'homme et en tant que femme. C'est ça l'enjeu, en fait, de la recherche et de l'entraînement. Mais l'entraînement minimaliste est très mal accepté. Les gens aiment souffrir Et ils aiment effectivement sentir qu'ils n'en peuvent plus.
Oui, parce qu'il y a tout de même cette dimension de culte de soi, de volonté de se dépasser, de l'augmentation de ses propres performances qui sont toujours derrière l'imaginaire sportif tel que chacun, même en faisant du sport du dimanche, le pratique, Isabelle Queval.
Oui, l'imaginaire sportif est indéniablement marqué par le sport de haut niveau, puisque c'est lui que l'on voit le plus.
Et par la performance,
et qu'il est tellement médiatisé. Mais dès qu'on s'écarte des problématiques du sport de haut niveau, il y a des quantités de manières de pratiquer le sport, l'activité physique, l'exercice physique, l'éducation physique, etc., qui inclut d'autres problématiques. Voilà.
Bien que c'est difficile de changer un imaginaire, on le sait pour les imaginaires historiques, on le sait pour les imaginaires géographiques, où s'arrête la France, où commence le pays voisin, où s'arrête l'histoire de la France et où commence-t-elle au fond des âges, etc. Donc on pense que la question de l'imaginaire sportif est aussi difficile à modifier parce que on a été modelé par la vision des Jeux Olympiques de Tokyo, puis la vision des Jeux Olympiques de Munich, puis d'autres Jeux Olympiques, etc. pendant toute notre jeunesse.
Sans doute, mais il y a un dépassement de soi qui est objectif, c'est celui du record, et il y a un dépassement de soi qui est subjectif, c'est celui de la personne qui s'efforce. Voilà, c'est-à-dire qui fait un effort et qui s'éprouve elle-même, qui éprouve son corps, son psychisme au travers de cet effort. Et dans ce dépassement de soi subjectif, il y a toute une marge d'expérience, d'expérimentation, le fait de travailler à sa longévité, le fait de travailler à sa santé, le fait de travailler à ses sensations plus ou moins fortes et le fait de travailler à son équilibre. À partir de là, on rentre dans des problématiques très intéressantes qui ne sont plus celles du sport de haut niveau.
Véronique Billien.
Alors oui, effectivement, il faut rappeler que le mot performance vient du vieux François parfourmer, qui veut dire accomplir. Donc la performance, c'est le chemin aussi, c'est l'accomplissement. C'est la façon d'y arriver, c'est justement les aspects cognitifs, c'est comment je vais m'y prendre pour, c'est progresser. C'est ça, là, c'est le chemin qui compte. Donc je pense qu'on va devoir redéfinir la performance, et c'est aussi pouvoir se dire qu'à tout âge, je peux être performant, à tout âge, je peux progresser. On a fait progresser un centenaire, voilà. Donc la notion de performance, c'est l'espérance.
Oui, mais néanmoins, ça n'enlève rien à la question que je posais tout à l'heure à Isabelle Queval, c'est-à-dire il y a tout de même cet imaginaire qui nous est rappelé à chacune des opérations des JO, à chacun des championnats du monde, cet imaginaire du record chronométré, en l'occurrence Véronique Billien.
Ouais, je pense que chacun a son imaginaire. Le monsieur tout le monde, ça va être la barre mythique des 3 heures ou même des 4 heures au marathon. Son imaginaire, on se le forge par rapport à, je dirais, aux amis aussi.
Mais il y a toujours une barre mythique, par exemple. Ouais, pas celle des 2 heures pour Kipchoge.
Exactement. Mais... Oui, 5 heures, 4 heures, finir. Ça s'appelle avoir un objectif, tout simplement.
Frédéric Ferrer, vous qui travaillez en tant que metteur en scène à cette série de spectacles qui s'intitule Olympicorama et qui ont commencé récemment mais qui vont se dérouler jusqu'en 2024, vous avez réfléchi à cette question à la fois de la spectacularisation, vous êtes un homme de spectacle, et de l'autre côté effectivement de cet amour de la performance qui a étreint depuis pas mal d'années nos propres sociétés.
Oui, en partie. Moi, ce qui me frappe, c'est comment, en fait, si on prend la course, par exemple, comment on est passé d'une course à l'origine qui était une course de fuite, hein, les premiers australopithèques qui couraient pour fuir ou pour chasser ou pour aller attraper quelque chose ou aller chercher même un animal gisant, donc pour arriver avant les autres rapaces ou les autres animaux qui pouvaient convoiter l'animal mort. Donc c'est une course pour manger ou pour se sauver. Et puis aujourd'hui, on est passé à des courses qui sont aujourd'hui très qu'on observe, quoi, des courses qui deviennent spectacle. Et à partir du moment où la course devient spectacle, en effet, elle est passionnante à regarder, à étudier. Elle est d'autant plus spectacle aujourd'hui qu'elle nécessite une technicité, on l'a vu à Doha, pour que des courses aient lieu, ça suppose un aménagement monumental, une demande à la planète aussi terrible, étant donné la climatisation du stade, etc. Et donc toute cette théâtralisation autour de la performance et pas seulement du record finalement, parce que si le record devient inatteignable, parce que dans certaines épreuves auxquelles je me suis intéressé, par exemple il y a des records en disque féminin ou en 400 mètres ou même en 100 mètres féminin par exemple, qui sont aujourd'hui très difficiles à battre et qui n'ont pas été records, qui n'ont pas été annulés, c'est pas tellement... Donc il y a l'attrait du record bien sûr, mais il y a aussi l'attrait de celui qui va gagner le concours. Donc ça reste du spectacle, même s'il n'y a pas le record, il y a celui qui sera premier ou deuxième ou qui fera le meilleur temps, qui est son temps à lui. C'est des enjeux aussi subjectifs de chacun.
Vous y croyez beaucoup ça justement, à cette subjectivité Isabelle Queval, ce qu'on fait, on pourrait enlever le chronomètre et puis on ferait encore des compétitions, mais des compétitions où il y aurait des vainqueurs sans savoir véritablement combien ils ont battu.
Voilà, il faut pas oublier qu'à l'origine du sport moderne, il y a la notion de jeu et la notion de compétition qui prime. Voilà, donc il y a des sports qui sont impossibles à traduire en termes de records pratiquement, voilà, et encore moins de records chiffrés. Il y a des sports qui sont pour l'essentiel des compétitions. Alors après, on fait des comparaisons dans le temps. On dit, voilà, l'équipe de rugby d'aujourd'hui, par rapport à celle d'il y a 30 ans, indéniablement, elle est...
Ah, ils ont pris quelques kilos.
Exactement.
Déjà, par exemple.
Mais voilà, ça reste du virtuel comme comparaison. Le sport de haut niveau pourrait très bien s'épanouir dans le jeu et la compétition. Que l'imaginaire de la performance traverse la société, c'est autre chose. Et effectivement, le sport a été l'icône de cette idéologie. Voilà.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Vous écoutez le temps du débat, il est 18h42 sur France Culture ce soir et nous sommes ici rassemblés pour réfléchir après la fin des championnats d'athlétisme à Doha et à deux jours de la performance attendue en tous les cas du marathonien Kipchoge qui pourrait passer dans deux jours, donc en dessous des deux heures, donc pour courir le marathon. Nous sommes ici avec Isabelle Queval qui est philosophe et enseignante chercheuse à l'INSHEA, avec Véronique Billat, professeure en STAPS à Évry Valdesson, et Frédéric Ferrer, qui est metteur en scène de la série de spectacles Olympicorama, pour réfléchir à cette question de la performance sportive, de la fin des records sportifs. Juste avant cet extrait de plusieurs hymnes olympiques, Isabelle Queval, vous nous disiez, il faut réfléchir à cet imaginaire de la performance comme si, au bout du compte, le sport n'était que le miroir de la société. On a fait ici une discussion autour du stade comme miroir ou pas des valeurs de la société, en particulier des lois qui régissent la société, puisqu'il y a les lois spécifiques au stade qui ne sont pas celles que nous vivons lorsque nous sommes en dehors des stades. Est-ce que vous pensez véritablement que si cet imaginaire de la performance disparaissait comme par miracle de nos sociétés, eh bien on pourrait tranquillement réformer le sport sportif, la performance sportive ou le spectacle sportif, en enlevant justement cet imaginaire de la performance du sport.
Réformer et tranquillement, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus si le sport est un miroir de la société. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est une éprouvette du social. Voilà. Et que par la manière dont il extrémise tous les paramètres, le sport...
Parce qu'il extrémise.
Le sport de haut niveau.
Ah oui.
Le sport de haut niveau. Par la manière dont il extrémise tous les paramètres, les matériaux, les techniques, l'entraînement, la médecine, etc., donne une idée de tendances vers lesquelles la société peut se diriger, notamment celle de la performance et du dépassement de soi. Mais l'imaginaire de la performance, il est très ancien, il date au moins de la philosophie des Lumières, et il découle de cette idée selon laquelle l'homme est perfectible. À partir de là, on a tout un 19e siècle qui se déroule en inventant des sciences, donc les sciences humaines, des machines pour mesurer la performance humaine. Et parallèlement, naît le sport moderne avec des techniques, des savants, comme par exemple Marais, qui travaille à la fois sur l'amélioration à l'usine et au stade.
Rappelons Marais, effectivement, avec en particulier son chronoscope, je crois que ça s'appelait, qui permettait de photographier justement le mouvement humain.
Voilà. Et donc cet imaginaire de la performance est né de l'idée que l'homme pouvait se perfectionner à l'infini. Même si aujourd'hui, on en revient sur beaucoup de plans, évidemment, dans la société d'aujourd'hui, néanmoins, le sport de haut niveau, lui, repose essentiellement sur cette idée qu'il faut dépasser des limites et dépasser des records.
Mais il y a tout de même quelque chose, c'est que si on suit par exemple des historiens comme François Jarich qui ont réfléchi à la question de la technocritique, il y a eu, lorsque on a mis en place par exemple au 19e siècle toute la mythologie du progrès et donc les machines qui allaient permettre d'améliorer les performances humaines en général, de l'industrie, de l'agriculture, etc.
En tout cas, les mesurer.
Il y a, oui, et de les améliorer, espérait-on, il y a eu tout de suite aussi des technocritiques, des gens qui ont dit, vers où va-t-on? Est-ce qu'on est dans un stade où on pourrait aujourd'hui imaginer une technocritique du sport en disant, tel qu'on est parti, on est allé trop loin, et tout compte fait, cet imaginaire de la performance dans lequel on est plongé depuis un siècle ou un siècle et demi, eh bien on pourrait arrêter et revenir en arrière.
Le sport de haut niveau, c'est une activité de règles. Voilà. Il est organisé par des règles.
Qu'il y a des lois qui...
Voilà, elles président à la naissance du sport, et donc ces règles sont...
On peut les changer.
...conventions, et on peut donc les changer. Et donc, on peut aussi imaginer, si on faisait par exemple un pont vers l'Antiquité qui avait aussi, comme on le sait, ces Jeux Olympiques, etc., et dans lesquels il n'y avait pas de mesure des records, on pourrait imaginer que le sport soit de la compétition. Voilà.
Véronique Billard.
La nouveauté actuellement, c'est que on a ce qu'on appelle les nouvelles technologies qui permettent de mesurer l'intérieur de ce qu'il se passe dans notre corps et non pas mesurer que des choses extérieures. Et par exemple à Doha, ils ont fait avaler des capsules radiofréquences.
Ah bon?
Oui, il y a 20 athlètes qui ont. Moi, je refusais de faire ça parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça produit dans le corps. Mais il y a 20 athlètes qui ont accepté d'avoir ces capsules qui permettent d'avoir la température en continu. Ne serait-ce que Denis qui a abandonné pour montrer que le corps augmentait de température de façon trop dangereuse par rapport aux conditions atmosphériques qui étaient de plus de 30 degrés, 80% d'humidité. Donc ça, c'est les nouvelles tendances qui sont très utiles.
On voit tous que c'est une catastrophe, qu'il n'y a personne dans les tribunes, que la chaleur n'est pas du tout adaptée, qu'hier, il y a eu plus de 30 abandons sur le marathon. Non, c'est triste.
Il y avait plus de 90% d'humidité, c'était étouffant, il faisait vraiment très chaud. Et tout de suite, une sensation d'asphyxie. Quand j'essayais de me mettre vraiment dans ma bulle et me dire « allez, on y va », j'ai tout de suite eu pas de jambes, ça répondait pas. Et puis, vite des sensations d'étourdissement, on vit un peu de... Voilà, comme si j'allais m'évanouir ou quoi que ce soit. Donc j'ai vite préféré... ne pas prolonger le calvaire dans lequel j'allais me mettre.
Voilà deux athlètes français, Kevin Meyer et Johan Dinis, qui ont abandonné justement dans ces compétitions d'athlétisme à Doha. Véronique Billard.
Pour rejoindre Isabelle, il y aurait des façons de faire très 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 élégantes. C'est une compétition, un championnat du monde. Ça se calcule. Par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de faire un marathon en Afrique. Eh ben, j'étais déjà étudiante en physiologie. J'ai calculé la réduction de mon chrono inhérente aux conditions à Douala, 38 degrés et 90% d'humidité. J'ai calculé que j'allais perdre 20 minutes. Et je me suis mis dans ce tempo. Donc, j'ai eu aucun problème. J'ai gagné la course. J'étais pourtant blanche et c'était au mois de février. Je venais de faire du ski de fond. Donc, en fait, on aurait très bien pu calculer ça. Là, ils ont perdu les meilleurs 10% chez les femmes, parce que c'était là les pires conditions, et 6% de performance chez les hommes. Mais je veux dire, on aurait pu d'emblée les avertir de cela. Ça se calcule, et c'est la responsabilité des hommes et des femmes de science. Et je pense qu'on doit prendre nos responsabilités et rétablir le spectacle en tant qu'affrontement, compétition, sans effectivement en avertissant qu'il y a des conditions dégradantes.
Oui, ou spécifiques en tout cas.
On doit prévenir, ouais. Voilà.
Sur ce point, Frédéric Ferrer, je rappelle que vous êtes metteur en scène de théâtre et que vous avez lancé une série de spectacles qui va courir jusqu'en 2024 qui s'intitule Olympicorama. Il y a aussi, évidemment, comme pour le spectacle théâtral ou le spectacle cinématographique, il y a aussi une dimension de tragédie, une dimension dans laquelle on plonge justement les athlètes parce que on veut y voir une sorte de reflet de nos propres angoisses vis-à-vis de la mort, vis-à-vis de la souffrance, vis-à-vis du désespoir, de la défaite. En l'occurrence, est-ce que vous travaillez sur ce sujet-là en tant que metteur en scène de théâtre dans votre série de spectacles?
Oui, bien sûr. Je regarde pas que l'exploit ou le record. Je regarde aussi celui qui n'y arrive pas, le quatrième, le cinquième, et celui aussi qui n'est pas qualifié aussi pour les Jeux Olympiques, ceux qui s'arrêtent avant. L'idée étant, mais je rebondis sur ce que vous disiez juste à l'instant là, c'est que dans des conditions comme ça terribles, comme il y a eu à Doha, de température, peut-être que ce qui pourrait parce qu'en effet, pour en sortir, ce serait de renouer avec la compétition et non pas avec l'esprit du record. Ou alors sinon, si on voulait aller vers des records, ça nous obligerait à, comme ils l'ont fait dans différentes épreuves, mais à catégoriser énormément les choses. Et ce serait assez cocasse qu'avec le changement climatique, on en arrive à catégoriser les conditions aussi climatiques, puisqu'on catégorise des poids ou des mesures ou des dans certains sports. On pourrait aussi dire, ben voilà, moi je suis champion olympique de moins 25 degrés sur tel type de course, ou bien on a des champions olympiques de plus 45 avec des records qui seraient totalement différents puisque adaptés aux conditions climatiques.
Isabelle Queval, on dit d'ailleurs qu'aujourd'hui les conditions climatiques, les changements du climat vont conduire à peut-être encore un autre freinage lié à ces records que l'on attend, parce qu'évidemment le corps, comme le disait à l'instant même Véronique Billat et Frédéric Ferrer, souffre plus dans des conditions comme celle-ci.
Sans doute, indéniablement, on vient de le voir à Doha, et donc faut envisager tous les enjeux qui font que à un moment donné on organise une compétition de ce niveau dans des conditions climatiques extrêmes. Voilà. C'est une réflexion d'ampleur, forcément. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui... Là, on a compétition de rugby interrompue à cause de typhons
au Japon.
Au Japon, voilà.
Oui, effectivement. Et il y a aussi cette idée qu'il y a d'autres acteurs du sport qui sont, par exemple, les chaînes de télévision. Véronique Billat, il faut aussi leur faire comprendre que peut-être la façon dont elles ont usé et peut-être abusé des sportifs et du spectacle sportif, eh bien, c'était en cours de changement. Il faudrait peut-être changer la façon dont elles représentent le sport aussi.
D'ailleurs, les télévisions, il y a des pouvoirs financiers. Il faut comprendre que après-demain, le projet Moins de 2 heures est financé par Ineos. Ineos, il possède l'ex-équipe Sky, et donc c'est un milliardaire qui a...
Britannique.
Ils ont aussi racheté Nice, le foot. Mmh. Un milliardaire britannique qui a une équipe
cycliste.
Ouais, donc, tout à fait. La plus grosse fortune d'Angleterre, après la reine, je pense. Et donc voilà, donc la télévision est tenue par ces pouvoirs-là, et donc ça représente une valorisation financière. Donc ouais, je pense que effectivement c'est complètement, il fallait la source. Pourquoi on évoquait des règles qui sont pas les mêmes dans le stade que ailleurs? Pourquoi on interdit aux gens de se doper? Tout simplement pour garantir l'intérêt du spectacle sportif, pour qu'il garde sa valeur. Et ça, c'est une vaste hypocrisie.
Et il y a tout de même quelque chose sur lequel vous travaillez particulièrement, Véronique Billat, c'est cette idée que on a porté au pinacle des héros qui ne nous ressemblaient pas. Et vous dites, dans l'âge démocratique dans lequel nous devrions être ou nous voulons entrer, il faudrait que nous ayons des records de gens qui nous ressemblent. C'est-à-dire changer profondément le logiciel qui est le nôtre, la façon dont on voit le monde, c'est-à-dire non plus des stars, des gens qui sont très éloignés, des étoiles lointaines, mais des étoiles qui nous sont toutes proches.
Complètement, là, je dirais, pour le projet d'après-demain, on a eu toute une série de vidéos sur Kipchoge, on le voit dans son training.
Donc c'est cette tentative de descendre en dessous de 2 heures pour le marathon.
Exactement, avec ses comparses, avec ses compagnons, dans des maisons très limite vétustes, mangeant simplement, on voulait manger pour qu'on s'identifie complètement à lui. Et pourquoi la course à pied a eu un tel essor? Tout simplement parce que c'est la seule épreuve. Un marathon, par exemple, où on peut prendre la ligne de départ au marathon de Paris avec les plus grands champions. C'est un petit peu décalé le départ, mais on est quand même dans la même course. Et c'est vrai qu'au tennis, on peut pas jouer en même temps Roland Garros. voilà, donc là, quand même, c'est extraordinaire de se dire, je vais participer à la même course où il y aura peut-être un record du monde.
Oui, Isabelle Queval, sur cette question justement de aller vers ce qui nous ressemble plutôt que vers ce qui est l'exception.
Oui, mais en même temps...
Vous n'y croyez pas trop ?
On se crée des héros, chaque société se crée des héros qui sont justement des gens exceptionnels. Bon. Alors, qui peuvent provoquer fascination et répulsion, ce qui est parfois le cas des sportifs, du Tour de France par exemple. Fascination et répulsion en même temps. Mais ce sont des gens sur lesquels on peut projeter justement un imaginaire, des rêves, quelque chose qui n'est pas forcément accessible. Alors monsieur tout le monde ou madame tout le monde peut-être est moins propice à l'identification, même si, comme le dit Véronique, tout est fait dans le storytelling des sportifs pour que justement, on voit dans leur enfance, dans leur jeunesse, etc., quelque chose qui permette de les rendre un peu communs. Mais en réalité, ils n'ont rien de commun. Ce sont des gens qui sont extraordinaires, déjà de par leurs dons dès le départ. Et on aime bien aussi participer de cette starification des champions dans certains sports, bien évidemment.
Mais en tant que philosophe, comment on résout cette question-là, ou comment pensez-vous qu'on peut le résoudre, ce conflit intérieur qui nous fait à la fois espérer avoir des modèles différents d'une autre et puis en même temps vouloir être comme tout le monde?
Ben, je crois que l'un n'empêche pas l'autre. On peut rêver sur des stars de cinéma et puis trouver dans sa propre existence des équilibres qui sont plus réalistes sans doute. C'est la même chose dans le sport. On va rêver auprès d'une compétition sportive et ça n'empêche pas de pratiquer soi-même le sport dans les mesures et les dimensions qui sont les nôtres. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Mais le spectacle repose quand même sur quelque chose qui est exceptionnel. Donc il faut quand même que la compétition sportive produise cela.
Brièvement, Véronique Billard.
Je dirais, pour rigoler, qu'on peut au moins mettre les chaussures du record d'après-demain.
Du recordman, oui, c'est
et
ça.
Et sûrement les raquettes, Isabelle.
Oui,
et je
pense effectivement que beaucoup vont les acheter, ces chaussures de Kipchoge, s'il bat le record et s'il descend en dessous des 2 heures pour le marathon. Un dernier mot, Frédéric Ferrer.
Oui, oui, sur quoi?
Non, mais je sais pas, sur la poursuite de votre record personnel, c'est-à-dire vous avez commencé par 4 spectacles déjà sur Olympicorama, vous allez continuer jusqu'en 2024, donc j'imagine qu'il y a pas mal, il y a aussi un travail de fond, pourrait-on dire.
Oui. Oui. Bah là, je sors du saut en hauteur. J'avais invité Mélanie Skotnik et Dominique Hernandez, et j'avais évoqué notamment avec eux d'ailleurs l'apport important du polyuréthane, c'est-à-dire du matelas en mousse qui permet à Fosbury d'inventer son saut et de pas se faire mal et donc de sauter de plus en plus haut. Donc en fait, la combustion fossile des énergies permet de sauter plus haut et d'aller plus loin. Donc faudra peut-être d'ailleurs accepter de sauter un peu moins haut. Donc ça, c'était pour le saut en hauteur. Et puis la prochaine fois, c'est le 4 novembre, ce sera sur le 100 mètres. Et à chaque fois,
j'invite. Et tout ça à la Villette, à Paris, hein, c'est ça, à la grande halle de la Villette.
Voilà, et là, il y aura Christine Aron et Pierre-Jean Vazel pour le 100 mètres que j'accueillerai à l'intérieur de ce spectacle-conférence qui finit toujours en débat-rencontre.
Merci beaucoup, Frédéric Ferrer. Merci à vous, Véronique Billard. Je rappelle que vous êtes auteur, entre autres, de S'accomplir ou se dépasser, c'est en NRF à la Bibliothèque des sciences humaines, mais également de Du souci de soi au sport augmenté, et c'est sur le corps entraîné dopé appareillé aux Presses des Mines, et également de Philosophie de l'effort aux éditions Nouvelles, Cécile Defaux. Et quant à vous, on peut lire, Véronique Billard, votre manuel, pourrait-on dire, autour de la révolution au marathon, c'est aux éditions de Buck. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baye, Fanny Richer, Hugo Boursier et Louise André à la technique aujourd'hui. Audrey Guélil à la réalisation, Marie-Laure Ciboulet.